Les rencontres du livre, le livre sous tous ses aspects avec Yolande Simon et ses invités.
Bonjour, ça devient un habitué. Nous sommes de nouveau avec Corentin Dejean de la Bâtie. J'ai souhaité quand même avoir Corentin parce que la dernière fois que nous avons parlé ensemble sur Radio Albatros, il avait un projet qui mûrissait un peu et maintenant ce projet est arrivé à son terme. J'ai devant moi le grand patron du bistrot.
Ça c'est bien introduit, Yolande, si je peux me permettre cette métaphore.
Oui. Oh là, oui, donc grand patron du bistrot, ça n'empêche pas toutes les autres cartes de visite que vous avez, dont on va parler, mais enfin, en un mot, et puis on va revenir plus longuement, donc vous avez repris le bistrot, c'est le moi je l'appelle la maison de la culture du Havre, hein, depuis quelque temps déjà.
C'est clair que c'est un bistrot culturel, oui.
Oui, hein. C'est un lieu culturel, puis c'est un lieu avec de la jeunesse, de l'effervescence. Presque tous sont l'âge de Bernie Sanders ou de, ou de Joe Biden. Hein.
Non, c'est pas vrai. Je m'inscris en faux sur cette déclaration. On a beaucoup de publics différents violents.
Je vous taquine. Donc Corentin maintenant a repris la gestion, mais en même temps, c'est quand même pas un métier de bistrotier, parce que vous êtes un animateur culturel. Hein. On peut dire que le bistrot, on va en parler plus longuement, c'est du jazz, c'est des rencontres, c'est des débats, des causeries, des chanteurs.
De la danse.
De la danse, voilà.
Beaucoup de tango au bistrot.
Beaucoup de tango. Et une grosse subvention du ministère de la Culture.
Oh, bah, énorme, puisqu'on est à peu près à 0 €. Donc,
Ah, bah ouais. Voilà, on vous impose pas alors.
Non, on ne nous impose pas trop.
Donc, voilà. Alors, Corentin, on va parler de vous plus en général. Vous êtes pur havré.
100% havré.
Alors, vous êtes né...
Je suis né, comme la plupart des gens, à l'hôpital.
Oui, à la roseraie, non?
Oui, à la roseraie.
À la roseraie, c'est ça. Hein. La maman, c'est Marie.
Hein. La maman, c'est Marie.
La grande Marie.
Hein. Oui, ma mère est prof de français.
Était.
Oui. Elle n'est pas morte.
Elle est retraitée.
Elle est retraitée, elle était prof de français à Saint-Joseph. Oui.
À Saint-Jo. Votre beau-père...
Christian. Mon beau-père, Christian Torelli.
Un autre Christian, là, vous êtes abonné au Christian.
Oui,
là.
Je suis abonné au Christian, puisque j'ai repris l'affaire d'un précédent Christian. Oui, Christian Torelli, peintre célèbre, dont vous pouvez voir le bus rouge qui navigue
en
ville avec des sorciers et des crocodiles dessus.
C'est ça. Et puis le papa, on peut en dire un mot, il est le maire
est mon
de
père.
Saint-Adresse.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et ma belle-maman, Laurence aussi, qui était prof d'anglais à Saint-Jo, que j'embrasse aussi.
Ah bon, passage. Alors tout ça, c'est tout la gloire de Saint-Jo. Joseph, là.
Oui, c'est vrai, quand ils étaient nombreux à Saint-Joseph.
Ah oui, voilà, c'est la gloire du charpentier, là. Alors, Corentin, vous êtes né donc ici, vous avez fait vos études...
J'ai fait mes études à Paris et à Rennes, c'est-à-dire j'ai fait les cours Florent pendant 3 ans.
Non, avant quand même.
Ah, avant, bah, j'étais à Saint-Jo, évidemment.
Oui, depuis le tout petit. Depuis
depuis le tout petit.
Depuis même le CP.
Non. J'ai fait une année Ignoval.
Oui.
Après, j'ai été à l'Assomption. Après, j'étais à Saint-Michel. Et après, j'ai fait un long corridor à Saint-Jean de la 6e à la terminale.
Vous avez plein de saints qui se sont penchés sur votre berceau.
Et oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça a bien réussi, mais enfin, en tout cas, c'est mon cursus scolaire.
Mais vous savez ce que disait Alphonse Allais, que vous pourriez peut-être reprendre à votre compte. J'aimerais mieux le paradis pour le climat, mais j'aimerais mieux l'enfer pour la compagnie.
J'ai rien compris.
Oui, Sarah me fait des gros yeux, là. Vous vous souvenez de votre premier livre?
Ouais, je me rappelle de mon premier livre. Enfin, le premier livre qui m'a marqué, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des Tom et Nana ou des trucs comme ça. Mais le premier livre, alors il y en a deux, il y a Cro-Blanc.
Ah oui.
Et il y a Sa Majesté des Mouches.
Ah oui.
Ouais.
Déjà une orientation très anglo-saxonne hein, que je remarque, on va voir dans vos choix musicaux.
Eh ben, c'est rigolo, mais ce que vous dites, parce que c'est vrai que... Alors, J'ai ce sentiment-là quand je vais en Angleterre ou que je suis dans des pays anglo-saxons de me sentir quasiment comme chez moi. Enfin, il y a une espèce de musique de vie qui me va assez bien, en fait.
Oui. Vous speakez la langue de Shakespeare ?
Je speak le franglais parfaitement
oui.
bien.
Oui, c'est ça. Oui, ouais, oui. Ouais. Donc, qui est le vrai anglais maintenant. Quoi.
Voilà, c'est ça. Non, mais je me fais comprendre et puis je peux soutenir une conversation.
L'anglais
après,
étant une petite variante dialectale de l'anglais universel, parlé de Tokyo, etc.
Exactement. Non, je me débrouille, mais je ne suis pas un grand spécialiste.
Oui. Alors, donc, après ça, vous avez fait vos études donc, à Saint-Jo, baccalauréat à Saint-Jo.
Elle. Spécialité art plastique.
Avec maman comme prof, non ?
Pas du tout, non. Si, je l'ai eu en 6e et en 2nde.
Oui.
Mais c'était une très bonne prof, je crois que c'est grâce à elle que j'en suis arrivé là, en tout cas.
Et que vous avez aimé la littérature.
Oui, c'est vrai.
La peinture par Christian.
Mais Christian m'a amené plus que la peinture, puisqu'il m'a amené une espèce d'ouverture intellectuelle à l'art, c'est-à-dire à la façon de créer, le processus de création, parce que moi je le voyais tout petit peindre des toiles, et je me disais, mais comment ces idées-là peuvent sortir de sa tête ? Donc il y avait. Très vite, je me suis éveillé à cette pratique.
Mais c'est un scoop que vous nous donnez là. Il y a des idées dans la tête de Christian.
Oui, c'est ça. Oui. Il ne jette pas juste de la couleur sur une toile. Non.
Bon, bah alors la prochaine fois que je vais le rencontrer dans le quartier, je vais quand même le saluer avec plus de déférence que d'habitude.
Il faudrait, mon cher Yolande.
Il faudrait. Alors, donc après ça, vous commencer un peu des études théâtrales et une carrière de théâtreux.
Après ça, j'ai glandé un an à la fac, comme tout le monde, parce que c'est dans tous les cursus. Voilà. Donc j'ai fait un an de fac d'histoire.
J'ai glandé à la fac, on dit
j'ai été à la fac. Oui, voilà.
Simplement.
J'ai été à la fac pendant
pas
un an.
Pas de pléonasme.
Voilà.
Histoire, non ?
Histoire géo, oui. Je tentais de reprendre l'entreprise familiale, donc c'est-à-dire d'être prof.
Oui.
Et c'était pas du tout mon truc.
Non.
Donc du coup, c'est grâce à une amie, Caroline Sattler, qui passait.
La belle Caro.
Voilà, avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre, avec qui je faisais du théâtre à Saint-Jo avec Joël Pagier, et du coup, qui passait au cours Florent, une petite semaine de stage et tout, et j'ai passé une semaine de stage avec elle, parce qu'elle ne voulait pas y aller toute seule, et j'ai été repéré, et donc du coup je suis rentré au cours Florent.
C'est un vivier, le Joël Pagier, un peu.
Il y en a plusieurs.
C'est un vivier de théâtreux à vrai, je pense à Xavier Perrier.
Joël Pagier, oui, mais il y a plusieurs, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire que Joël, c'était vraiment par hasard aussi que je me suis inscrit au théâtre. Une fois que Joël, une fois que je suis sorti du lycée, Joël m'a poussé vers Colette Cray.
Ah, alors l'autre vivier.
Joël m'a donné l'amour du théâtre et je crois que.
Et Colette, l'amour de la compagnie.
Ouais, et l'amour de. Enfin, comment aimer, quoi.
Oui,
enfin, il y avait un espèce de truc où comment aimer bien, comment aimer
fort.
Alors
pour nos auditeurs, qu'ils connaissent sans doute, mais Colette Cray est donc créatrice du...
GTU, le groupe théâtral universitaire.
Alors qui s'appelait d'abord GTI, parce que c'était l'IUT.
Ouais, vous m'apprenez quelque chose, mon cher
Yolande. Oui, je suis un petit peu à l'origine de l'opération, c'est pour ça. Et donc j'avais conseillé GTI, parce que c'était une blague aussi avec, c'est un truc d'automobile GTI, non ?
Oui.
Hein ? Et donc c'était l'IUT, après c'est élargi à l'ensemble de l'université. Alors vous avez joué dans Les Sorcières de Salem.
D'Arthur Miller, ouais. Dans plein de choses. De Usinage, de Le Mailleux.
Ah,
très belle pièce.
Oui. Vous savez qu'il nous a quittés, Daniel.
Oui. Ça m'a remué un peu parce que Usinage, j'avais un mot. Enfin, c'est un truc qui est fort. Surtout par les temps qui courent. Je trouve que c'est une.
Oui, c'est une pièce sur le monde ouvrier, le monde du Nord et tout ça. Oui.
Très belle pièce, Usinage. La Petite Entaille de Duringer. Le Fil à la Patte de Fédot.
Fédot, oui, c'est ça. Oui.
Je crois qu'il est le souvenir. Alors, le plus fun que j'ai avec Colette Cray, c'était Le Fil à la Patte de Fédot. Ouais.
Oui, c'était...
C'était sportif.
Oui, c'est ça, oui. Avec une très jolie comédienne, je me souviens un peu, qui se promenait dans une tenue adéquate.
Mais ça, Yolande, c'est votre côté lubrique, je n'entrerai pas dans ce genre d'allégation.
Oh bah alors, je vais me faire très, 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 très mal voir. Oh bah vous savez, j'arrive à un âge où c'est les yeux qui l'emportent hein, sur le reste. Hein. Grand diseux, petit faiseux, comme on dit au Pays de Caux. On va dériver là, attention, là, nous sommes dans une émission littéraire. C'est vrai que maintenant, depuis l'affaire Mazeneff et tout ça, il faut quand même faire très, très attention. Sarah est tout le temps prête à nous dénoncer auprès du tribunal et du CSA, exactement. Donc, si vous voulez, ben, on parlait de votre amour de la musique outre-Atlantique. Et on va l'écouter. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, bonjour, nous sommes toujours avec Corentin Dejean de Labatie, hein, qui est, disons, un homme universel. Hein.
Je suis un couteau suisse culturel.
Ah voilà, un couteau suisse culturel, c'est une belle définition. Et Corentin, nous venons d'entendre Marc Cohn, Walking in Memphis, l'ai-je bien dit?
Vous l'avez bien dit, mon cher Yolan. Je suis éberlué par votre niveau d'anglais.
Ah, of course.
Oui, vous allez me demander pourquoi j'ai choisi ça.
Oui, par exemple, oui.
Eh bien, c'est un truc que j'écoutais quand j'étais ado dans mon Walkman cassette Auto River. C'est je hurlais cette chanson-là dans la rue. Enfin, j'adorais ça. Et il y a très peu de enfin, je l'avais un peu oublié. Et en préparant au bistrot, on fait des quiz avec des blind tests. En préparant un blind test, je suis retombé sur cette chanson-là. Et c'est un peu une Madeleine de Proust.
Oui.
Et ça m'a retouché, quoi. Je trouve que c'est un truc, on a envie de la chanter, c'est une chanson à chanter sous la
douche. Vous aimez bien quand même la chanson américaine, enfin la musique américaine?
Non, je suis pas fermé, j'aime tous les genres de musique, je suis un peu moins électro, mais du classique, j'aime beaucoup le jazz, évidemment, je suis un grand fan de jazz.
Oui. Vous aimez toujours Luis Mariano, Tino Rossi, tous les gens de votre génération?
Exactement. J'ai un grand fan pour Maurice Chevalier.
Ah, Maurice Chevalier était déjà plus swing un peu.
Oui. Mais les albums d'Aznavour, les premiers albums d'Aznavour, ils sont très swing aussi.
Oui.
Le
oui.
feutre topé, tout ça. Il oui. y a des beaux trucs. Non, je suis
pour
pas.
Pour faire une jam. Un soir dans Paris.
Mais je suis
pour
pas
faire
fermé.
Une jam.
Je suis pas fermé à la musique. Enfin,
à la pop française.
Ouais, j'aime tout.
Vous êtes pas sectaire. Hein.
Je suis pas sectaire. C'est non. vrai que je suis un peu moins musique électronique et techno.
Oui, vous n'êtes pas Kraftwerk ou non?
Non, ça me. Enfin, une chanson, oui, mais après, ça me gonfle.
Oui, voilà. Oui. Autobahn. Alors, on était chez Florent, après avoir été chez Colette.
On était chez Florent après, à Paris.
C'est bien, Florent?
Il y a tout
faites prendre... attention, ils doivent écouter Albatros.
Oui, probablement. Je ne vais pas renier ce que j'ai fait, mais je pense que j'aurais dû d'abord faire un conservatoire régional avant de faire Florent. Florent, on arrive dans l'univers parisien. C'est très, très. C'est vraiment
c'est
la compète.
C'est branchouille.
C'est la compète surtout. C'est la compète. Ça dépend des gens qu'on rencontre, ça dépend des profs sur qui on tombe. Et là-bas, il n'y a pas d'aide à apprendre à jouer au théâtre. C'est-à-dire qu'on a cours 9 heures par semaine.
Oui.
Mais tout le reste du temps, on a les salles de répète. C'est-à-dire que les 9 heures, quand on arrive, les scènes qu'on présente doivent être jouées, montées, oui. Apprises. Et finalement, comme on est pas mal par classe, on a très peu de temps pour.
Avez-vous pour souvenir d'un prof qui vous a marqué quand même
Non, moi j'ai souvenir d'un prof qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Jean Garcia, qui était un des derniers acteurs, qui a été mis en scène par Jean-Luc Lagarce.
Oui.
Et donc, il nous avait fait monter Le Pays Lointain. Sur un homme qui revient dans sa famille avec qui il était fâché pour leur dire qu'il va mourir.
Un peu les thèmes de Lagarce, toujours, voilà. Oui.
Mais c'est un texte très dur, mais je pense que c'est la plus belle fin du théâtre français.
Oui.
Cette pièce-là où il raconte à la fin qu'il marche sur une voie ferrée, il fait nuit, il est comme ça entre la lune et le ciel, et qu'il entend le bruit des pattes sur ses graviers, qu'il devrait hurler un long et doux cri, un beau... mais il ne le fait pas, et il dit à la fin, ce sont ces moments-là que je regretterai, enfin je le dis moins bien que Lagarce, mais le texte de fin du Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, c'est pour moi la plus belle fin du théâtre français.
Alors cette passion pour Lagarce témoigne aussi de votre passion, pour les auteurs en général, de votre passion de metteur en scène, hein, puisqu'après un peu avoir fait vos gammes chez Florent, et vous avez commencé un travail de compagnie.
J'ai commencé un travail de compagnie. Alors, après Florent, il y a une petite période où je ne savais pas trop quoi faire. Je suis arrivé à Rennes pour reprendre des études en art du spectacle, donc théâtre, parce que je trouvais que j'avais beaucoup de pratique, mais que je manquais un peu de bagage. C'est-à-dire quand je parlais à mes comédiens, dans ce que je lisais, j'avais besoin d'une ouverture. Et c'est dur de faire son truc tout seul, donc du coup j'avais besoin un peu, j'avais la pratique, il me manquait un peu la théorie.
Oui.
J'avais envie d'emmagasiner un peu les courants théâtraux, la différence entre l'historicité, l'historicisation, enfin tout ça m'a très passionné. Je suis déjà en terminale, j'avais pris art, option art plastique pour l'histoire de l'art. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc du coup, ça m'a donné un bagage et ça m'a donné une ossature pour réfléchir, pour mettre en scène, quoi. Et comme j'étais à Rennes, et qu'à Rennes, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Oui, c'est une ville culturelle.
C'est une ville très culturelle.
Le Théâtre National de Bretagne.
C'est bien, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de projets qui se montent, mais c'est un peu la foire à l'empoigne. Alors j'ai décidé, j'ai travaillé avec le Théâtre des Lucioles, avec Marcel Di Fonzobo, qui est maintenant... Enfin, j'ai travaillé très peu, mais vraiment, je l'ai vu de près son travail, qui est maintenant le directeur du CDN de Caen, et qui était à la...
A succédé à Lambert Wild.
Probablement, je ne sais pas qui était là avant, mais Lambert maintenant, c'est Marcel Di Fonzobo, qui avait fait tout un cycle sur copie, et j'ai regardé sa façon de travailler, et je me suis dit, si tu veux raconter des histoires, il faut que tu arrêtes d'être comédien, il faut que tu te mettes à la mise en scène, parce que il y avait un nouveau goût qui émanait en moi, c'était de raconter des histoires, de créer une équipe, une famille, tout ce que j'avais un peu retrouvé dans mon parcours théâtral, le sens de la famille de Colette Cray qu'elle m'avait donné, c'est-à-dire de vivre ensemble un peu comme des forains. Il y avait plein de choses où je me dis, la mise en scène, c'est ce qui regroupe tout ça. C'est qui vas pouvoir organiser ce temps de culture ensemble autour d'un texte que tu as choisi. Donc du coup, c'est tout naturellement qu'en plus, comme j'étais à la fac de Rennes, j'avais dans ma promotion des gens qui apprenaient la théorie du théâtre, mais qui voulaient aussi faire de la pratique. Et on a monté une petite compagnie. Au début, on a fait un spectacle qui s'appelait à la base Un paysage sur la tombe, qui était pas très très le titre était pas bien, donc on l'a changé en faisant La Face Cachée du Caramel, et là on est parti pendant 27, on a fait 27 dates de suite avec ce spectacle, en partant des Tombées de la Nuit pour arriver jusqu'au Festival de Chalon, et puis voilà, la compagnie était née, et après c'était un premier jet, puis après on a monté une compagnie avec Jean Le Pelletier qui est parti à Bruxelles, mais on continuait quand même notre compagnie. On a monté un spectacle de rue qui s'appelle Le Grand Défi des Frères Zipper, qui a beaucoup marché, qui était un peu notre façon de subventionner, ce spectacle de rue était notre façon de subventionner les spectacles un peu plus solennels. Donc Jean a monté un conte dessiné, et moi j'ai monté deux, trois pièces, dont Le Cri de Christelle de Yolande Simon.
Oh, encore lui.
Ouais.
On n'en sort pas.
Bah, c'est-à-dire que quand on est sympa avec lui, il ne prend pas les droits, en fait. Ouais.
On se demande d'ailleurs s'il ne travaille pas à Radio Albatros pour inviter les invités qui vont parler de lui. Quoi.
Non, le but n'était pas de ça, mais bon, ça fait partie d'une des pièces que j'ai montées, donc je le souligne.
Oui, moi, je dois dire quand même, juste en passant, sans vouloir parler de moi, mais parler de Corentin, c'était... Et un travail, je ne parle pas de mon texte bien sûr, mais c'est un travail à la magnifique aussi au niveau de la mise en scène et au niveau... Et qu'on a joué au bistrot, tiens.
Tiens, quelle transition toute trouvée.
Ah, voilà, et avant de parler de ce bistrot, on va écouter votre deuxième choix musical. Bonjour, nous sommes toujours avec Corentin de Jean de Labatie et justement nous parlions du bistrot dont il a repris les rênes. Alors le bistrot d'abord, dites où ça se trouve.
Alors le bistrot ça se trouve au 116 Avenue des Cotilles, c'est un bistrot culturel mais c'est également aussi un lieu de vie.
Un lieu de vie, c'est un grand défi, moi je ne veux pas dire challenge, c'est un faux ami, c'est un défi.
C'est pas un défi, c'est effectivement c'est une institution le bistrot, c'est un bar qui existe depuis, oui. Un bistrot qui existe depuis 1969.
Oui.
On avait le même patron depuis 50 ans, Christian Zion, que j'embrasse s'il nous écoute. Et qui a eu ses heures de gloire, hein, qui a marché pendant 30-40 ans, puis sur la fin Christian faisait moins de programmation culturelle, donc là il a de lui-même senti qu'il fallait qu'il passe la main, et puis moi
alors il y a eu une transition, c'est-à-dire que pendant un moment vous avez travaillé avec Christian en vous occupant de l'animation plus culturelle ou musicale ou artistique.
C'est ça, ouais, c'est-à-dire que pendant un an on s'est associé, je faisais à la fois du service et puis avec lui et puis j'organisais l'animation culturelle. Et puis ça commençait à se relancer, on voyait que ça marchait, la pâte avait prise, les habitués, bon, déjà j'étais très client de ce bar-là, donc forcément les gens me connaissaient déjà, donc il y a eu quelque chose qui s'est fait, ça semblait être comme une évidence. Après c'était un peu...
Alors, ça doit vous occuper beaucoup, et pourtant, je ne vais pas l'oublier, vous n'avez pas abandonné le théâtre, et vous avez un projet avec l'ami Pierre Taberlé.
Oui, on monte une pièce que j'ai écrite il y a 3 ans, je crois, qui s'appelle La vie trop longue des Flamants roses, avec Pierre Taberlé et Xavier Adeline. Et en fait, c'est assez simple. En fait, c'est quelqu'un qui parle à sa conscience à plusieurs étapes de sa vie. Donc, la conscience ici est personnifiée par. Donc, c'est Youri et Georges. Et en fait, c'est un peu.
Quelqu'un qui parle à sa conscience.
À sa conscience, ouais.
Ça me rappelle Grimoire, Sacré Bouteille.
Ouais, qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Oui.
On fait dans les personnes décédées beaucoup avec vous, Yolande.
Non, mais
en fait, il y a une espèce de constat comme ça de l'enfance jusque. Voilà. Souvent, on a une petite voix intérieure. Et puis, c'était aussi une façon pour moi de raconter en sous-jacent le ça, le moi et le surmoi, le fameux principe lacanien. Et donc, je suis parti.
Freudien d'abord, donnons au maître d'abord.
C'est vrai, mais Lacan l'a mieux expliqué, je trouve. Et donc,
Vous savez que vous venez de nous le mettre mal avec tous les partisans de Sigmund Freud de Radio Albatros, en disant que Lacan, lui, est supérieur.
Oui, c'est vrai. Bon, Lacan. Non, j'ai pas dit que Lacan, il était sur ce. J'ai mieux compris
Lacan.
La notion.
Alors, revenons quand même à votre travail. Cette programmation, comment vous l'établissez?
Déjà, je me mets à la place du public. Enfin, moi, je suis un gros consommateur culturel. Donc, déjà, il faut que je me dise, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien? Comment j'aimerais bien vivre ma semaine culturelle? Donc. Dans ma semaine culturelle, j'ai envie de jazz. Ça, c'est obligatoire. Donc, tous les mardis soirs, on fait du jazz. Voilà, avec l'ami Pierre Touquet qui m'aide dans cette tâche ardue. Pierre Touquet, magnifique guitariste manouche émérite. Donc on travaille là-dessus. Après, j'ai envie d'avoir des concerts, pour ce qui est musical, j'ai envie d'avoir des concerts normaux. Donc le jeudi, on a un peu de tout. Ça va du chant de marin, de la musique africaine. Hier soir, on avait une fanfare. La semaine, on a un groupe de Seattle le 19 mars, de Seattle aux États-Unis. Et on fait venir des groupes de Sao Paulo aussi. Là, au mois de mai, il y a Les Soins, qui est un groupe qui est bien connu des Havrais, qui rejoue chez nous le 30 avril, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc les jeudis. On s'est dit qu'on avait de la musique. Et puis on s'est dit, bon, on va pas faire du remplissage, qu'est-ce qu'on aura envie d'autre? Le mercredi, c'est plutôt les formes littéraires, c'est plutôt dédié aux formes littéraires.
Oui.
Le vendredi, c'est plutôt l'apéro des copains, donc on fait des quiz, on fait des vernissages, on fait... voilà. Et le samedi, c'est la danse. Parce qu'il faut que les gens, il faut que ce lieu-là, qui est quand même grand, les gens puissent danser. Donc tous les derniers samedis du mois, on a du tango. Tous les deuxièmes samedis du mois, on a du lindy hop, qui est l'ancêtre du rock'n'roll. Et on a de la musique irlandaise et on a des gens qui passent des vinyles pour danser, voilà. Donc on essaye vraiment d'avoir, de faire dans le pluriculturel, voilà. On accueille aussi beaucoup d'associations, je pense, on travaille avec le Havre de Verre, le Havre de Culture avec un S à la fin, qui est un projet de ferme pédagogique qui se réunit souvent chez nous, le Hangar Zéro aussi, enfin voilà. Il y a de la place vraiment pour tout le monde, pour toutes les formes de culture.
C'est
pour
un véritable tout. Épicentre.
Je ne sais pas si c'est un véritable épicentre, mais en tout cas, on est bien dans cette notion de couteau suisse culturel, et je pense que c'est ce que j'avais envie de faire, et on espère que ça continuera fort, parce que là, le public est plutôt respectif.
Alors, vous êtes ouvert beaucoup plus que naguère ?
On n'est pas, oui, un petit peu plus, mais on est vraiment, on fait de l'apéro culturel, donc du coup, nos spectacles sont à 19h30, nous, on ouvre de 17h à 23h. Des fois, on pousse un peu la chansonnette jusqu'à minuit.
Oui.
Mais oui, on n'est pas... il ne faut pas retenir le bistrot comme un débit de boisson. Hein. Il faut vraiment... voilà, au bistrot, on peut boire un coup, évidemment. Il y a des gens qui passent juste pour ça. Mais on consomme surtout de la culture. On consomme de l'humain. On consomme des échanges. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Le bistrot, c'est un bar où on peut arriver tout seul et repartir avec toute une bande de copains. Hein.
Là, nous arrivons à la fin. Vous entrez en fait dans quelque chose que l'on découvre, parce que autrefois le bistrot, c'était le lieu de Gervaise, de Coupeau, de Malédiction. Et aujourd'hui, tout le monde se bat pour qu'on fasse revivre les bistrots et qu'on retrouve ce vivre ensemble.
Bah, à l'époque des réseaux sociaux, je pense qu'il est important de remettre le lien social du bistrot en place.
Et que les gens se voient.
Voilà.
J'ose pas dire tout de suite se touche, mais enfin, quand même, quoi. Hein.
Les gens se touchent beaucoup au bistrot.
Eh bien, merci Corentin.
Merci à vous, Yolande.
Et tous au bistrot.
Merci.
C'était Les Rencontres du Livre, le livre sous tous ses aspects, avec Yolande Simon et ses invités.